Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref, un homme marié. Depuis mardi matin, notre règne est fini.
Langue de
France.
Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel,
106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont envie, qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel.
Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur Langue de Fronde.
Salut. On est en plateau avec les Langues de Fronde pour une émission qui a des airs de dimanche. C'est une émission un peu spéciale où on sera peut-être un petit peu moins affirmatif que d'hab, où on va discuter. Ça, c'est bien. Et le point de départ de cette émission, c'était le point d'arrivée de notre émission sur Mazan, qui, comme vous le savez, auditeur et auditrice assidue, finissait sur un peu les doutes ou les blocages qu'on avait vis-à-vis de ce que Mazan avait réveillé un peu en nous comme rapport à comme question sur le rapport à la prison, sur le rapport au système pénal. Et plus largement, un peu sur la punition, l'idée de punition des VSS, d'avoir des attentes de punir ou d'incarcérer, ou les deux, les auteurs de VSS. Et du coup, on était consumés par le doute et l'obscurité. Et donc, on vient chercher la clarification et la lumière en ce dimanche. Et du coup, on est 5 en plateau et 2 en régie. Et on dit qui on est ?
Ouais. Alors on est Mirko,
Léa,
Vi,
Astrid
et Isée. Et peut-être préciser que du coup on est 4 langues de fronde et une invitée exceptionnelle.
une exceptionnelle invitée.
Une exclue. On a une exclue énorme aujourd'hui.
Merci. Pour un dimanche, franchement.
En plus, un dimanche. Des heures sup. Je ne sais pas comment tu veux te présenter.
Ce que je peux dire, je suis Vi. Je vais dire mon âge, allez, ça permet de situer un peu qui je suis. Donc, je vais avoir 35 ans, là, en février. Ça fait depuis 2019 que je m'investis dans les luttes et les alternatives écologistes. Aujourd'hui, l'écologie, c'est un milieu vaste. Je me situe plutôt à l'endroit de l'écologie libertaire, anarchiste, etc. À la base, je suis féministe avant d'être écologiste depuis longtemps, mon adolescence, je pense. J'ai été biberonnée, enfin pas biberonnée, mais depuis mon adolescence, j'ai écouté Radio Rageuse, etc. Je me suis construite autour du féminisme. Et quand je suis arrivée dans les milieux écolos, je me suis rendue compte qu'il y avait toujours besoin de féminisme, dans les milieux anarchistes aussi. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à la gestion des violences sexistes et sexuelles dans ces milieux, et notamment des pratiques, des outils, des pensées de justice communautaire qu'on peut mettre en place dans ces espaces où il y a déjà de la répression policière, étatique, mais aussi dans ces espaces où on essaye d'expérimenter des idéaux politiques.
Et du coup, dans cette émission, on n'est pas non plus là pour dire qu'il ne faut pas porter plainte, qu'il y a des façons de gérer des conflits qui sont à la hauteur de ce que les gens peuvent faire, estiment que c'est juste de faire, et qu'en fait, nous, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas, mais plus pour se poser la question de « et si, en fait, on se posait la question de comment faire sans prison, qu'est-ce que ça donne ?» Et que du coup, ça, c'est plutôt ce qu'on a envie de creuser dans cette émission. Et aussi, bah, en fait, questionner pourquoi est-ce qu'on fait une mission qui interroge VSS et prison, alors qu'en fait, les prisons ne sont pas du tout pleines de violeurs, agresseurs. Je veux dire, si la manière de régler les questions de VSS se faisait dans la justice pénale actuelle avec pas mal d'incarcérations, on se poserait des questions tout à fait différentes, je pense.
Pour commencer, on s'est dit que c'était pas mal de se lire en tant qu'intro un petit bout du texte d'Angela Davis qui s'appelle « La prison est-elle obsolète ?». C'est juste, voilà, histoire de se lancer sur le sujet de la prison. Et puis, voilà, et de lancer aussi notre avancée après et de pouvoir y réfléchir ensemble. Donc, je vous lis ça. C'est un texte de 2003. Et j'ai mis mes lunettes. Et ça change la vie quand même, faut le dire. Pour la plupart des gens, il n'est pas difficile d'imaginer un monde sans peine de mort. La prison, en revanche, est perçue comme un élément constitutif et immuable de nos sociétés. En fait, on a spontanément tendance à penser que les militants carcéraux, y compris ceux qui se désignent eux-mêmes comme militants anti-prison, cherchent uniquement à améliorer les conditions de détention ou à réformer fondamentalement le système carcéral. Pour une écrasante majorité de citoyens, la suppression des prisons est tout simplement impossible et inconcevable. Les personnes qui militent pour l'abolition carcérale sont considérées comme des utopistes et des idéalistes dont les idées seraient au mieux irréalistes et inapplicables et au pire mensongères et insensées. C'est dire à quel point il est difficile d'envisager un ordre social qui ne repose pas sur la menace de l'incarcération des individus dans des lieux épouvantables conçus pour les séparer de leurs proches et de leur communauté. La prison est considérée comme un élément si naturel qu'il est extrêmement difficile d'imaginer la vie sans elle. C'est pas mal pour se lancer. oui, c'est un texte de 2003. C'est un texte de 2003 qui parle évidemment essentiellement des États-Unis et des mécanismes qui font que y a 2 millions d'Américains en prison. C'est un texte où elle décrit aussi les liens assez particuliers entre le capitalisme et le carcéralisme, avec une expression assez forte qui est l'industrie du châtiment, qui m'a assez marquée. Et voilà, quand on se positionne comme militant ou militante anticarcérale, il y a donc non seulement en face de nous des gens qui seraient des pro-prisons, mais aussi, il y a toute une masse de gens qui juste ne pensent pas que ça peut être autrement. Mmh. Et c'est un peu toute la difficulté. Et c'est comment on imagine, comment on expérimente, comment on essaye de faire un peu autrement. Et on a une heure pour faire ça. C'est cool.
Mais le truc auquel je pensais là, c'est par rapport à ce que tu disais sur... Enfin, du coup, il y a tout ce qu'on sait sur la prison comme cette espèce de conservation magique de l'ordre social, de répression des populations précaires, racisées, etc. Et en plus, c'est pas du tout des violeurs et des agresseurs. Donc c'est même pas la réponse. Mais quand même, on pourrait se dire, oui, mais en fait, on ferme les yeux sur les conditions de vie des détenus, sur ce que ça représente, sur le stigmate que c'est derrière dans la vie d'être ex-détenu et tout. En fait, c'est même pas la réponse à nos demandes de réparation sur les VSS. Et du coup, c'est ça qui est un peu traître, c'est que puisque le système pénal est ultra insatisfaisant, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais genre ultra insatisfaisant pour les questions de VSS, du coup, ça vient aussi réactiver un peu nos réflexes carcéraux, puisque du coup, quand il y a condamnation et quand il y a incarcération, on s'en réjouit, parce que c'est très rare, quoi. Et du coup, la situation par défaut, c'est la prison qui sert à incarcérer des gars qui volent des trucs et jamais la prison qui répond à ces questions, qui emprisonne les violeurs, quoi.
Et bah, là, t'as nommé quelque chose que je trouve hyper important de souligner, la question de la préservation de l'ordre social dans le système judiciaire, carcéral, pénal actuel. Du coup, peut-être que pour parler un peu de qu'est-ce qu'on peut construire, j'ai envie de enfin de faire un petit, une petite liste moi de des dysfonctionnements, enfin pas que moi j'observais, mais en tout cas enfin en tout cas dans les formations que je donne, que je rappelle toujours en début de formation, que en effet aujourd'hui les personnes qui sont incarcérées, reconnues coupables, qui ont des peines, bah, c'est souvent des personnes marginalisées, des personnes précaires, racisées, et que bah, souvent les hommes blancs, bourgeois, privilégiés ont rarement des peines. Alors là, les personnes justement qui ont produit des VSS et qui, plus elles ont du pouvoir, généralement quand on produit des VSS, c'est parce qu'on a du pouvoir, et ces personnes-là, plus elles ont du pouvoir, moins elles sont reconnues coupables par le système pénal actuel. Donc ça déjà, c'est un dysfonctionnement. Ensuite, il y a un autre dysfonctionnement qui est tout au long de la chaîne judiciaire, que ça soit on va au commissariat, ensuite on attend de voir si quelle réponse le procureur va donner, on va attendre est-ce que par exemple si on est menacé de mort par un homme, notre ex-conjoint en majorité ou conjoint, bah est-ce que il va être mis à distance, est-ce qu'il va avoir une garde à vue, s'il a une garde à vue, s'il y a une confrontation, est-ce qu'on va être mis en sécurité, est-ce qu'il va pas chercher à se venger après, de quelle manière on entend, comment notre témoignage est reçu, combien de temps on attend. Parce que c'est ça aussi ce qui est terrible dans la justice pénale, c'est l'attente pour les victimes, ne pas savoir, entre guillemets, à quelle sauce elles vont être mangées. Et ensuite, bah, potentiellement, le classement sans suite. Parce que, pour rappel, c'est 86% des plaintes dans les VSS qui sont classées sans suite. Et pourquoi on a ce classement sans suite ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de violence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuves. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les preuves et les violences qui ont été rapportées ne rentrent pas dans le cadre de la loi. Et pourquoi elles ne rentrent pas dans le cadre de la loi ? Parce qu'on est issu d'une société patriarcale, classiste, bourgeoise, blanche, validiste, et que, par exemple, il y a encore quelques décennies, le viol conjugal était légal. Et même, par exemple, si une personne dénonçait le viol conjugal qu'elle avait subi, enfin déjà, il fallait qu'elle prenne conscience qu'elle avait subi un viol parce qu'il y avait le devoir conjugal. Donc même plein de personnes étaient violées sans en fait savoir qu'elles étaient violées ou même pouvoir poser des mots là-dessus. Et si elle le dénonçait, bah, on pouvait leur répondre, mais en fait, c'est pas dans la loi, donc c'est pas du viol. Et c'est exactement ce qui continue de se passer aujourd'hui. Là, par exemple, on a eu récemment l'inscription du consentement libre et éclairé dans la loi. C'est pas rétroactif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes dont le consentement libre et éclairé n'a pas été obtenu lors de relations qu'on pourrait dire sexuelles, mais du coup qui ne le sont plus quand il n'y a pas de respect du consentement, et bah, celles-là elles vont pouvoir porter plainte, celles-là vont pouvoir porter plainte. Par contre, toutes celles à qui c'est arrivé avant, bah, c'est pas possible. Alors elles vont pouvoir porter plainte et peut-être espérer une jurisprudence positive si les juges essayent de prendre en compte l'évolution de la loi. Donc en fait, tous ces dysfonctionnements font qu'aujourd'hui, bah, les violences sexistes et sexuelles, bah, c'est très dur d'obtenir une condamnation. Et d'autant plus, ça peut être un espace où il y a la reproduction de la violence secondaire, c'est-à-dire toutes les violences qui ont lieu après la violence initiale. Là, on l'a vu, par exemple, Depardieu, il y a eu une condamnation pour violence secondaire pendant la procédure de la part d'une victime. Donc ça fait jurisprudence, c'est un précédent. Ça crée un précédent, mais en fait, ça met des années et des années, des révolutions, entre guillemets, enfin, de la mobilisation au niveau institutionnel pour arriver à ça. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant ? En fait, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Et du coup, en tout cas, moi, dans ce que j'essaye, c'est justement qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Donc, des pratiques là que je vais pouvoir développer, mais aussi comment on essaye de ne pas reproduire cette préservation de l'ordre social dans nos espaces. Comment on essaye de faire en sorte que ça ne soit pas que les victimes les plus privilégiées qui obtiennent justice communautaire, que ça ne soit pas encore les personnes les plus marginalisées qui subissent la violence de la justice communautaire, et je pense notamment aux meufs trans, aux personnes racisées, aux personnes marginalisées, queer, etc. Et comment on fait pour que ça ne soit pas encore toujours les mecs cis hétéros blancs bourgeois qui s'en sortent. Et du coup, ça, pour moi, c'est vraiment une ligne de mire. Une ligne directrice, je sais pas si c'est une ligne de mire, l'imaginaire à laquelle ça renvoie, mais en tout cas, c'est ma ligne directrice dans les pratiques que j'essaie de mettre en place, qu'on essaie de mettre en place, parce que je suis loin d'être seule.
Moi, je veux bien revenir sur ces dysfonctionnements, parce que du coup, sur féminisme et prison, ou sur femme et prison, il y a un nom qui revient tout le temps, c'est Gwenola Ricordo. Elle dit, en fait, tous ces dysfonctionnements-là, c'est pas des dysfonctionnements, c'est pas des défauts du système, c'est le... le système, quoi. C'est comme ça que c'est pensé. Alors elle liste à quoi ça sert, c'est quoi les vertus des peines, genre en fait pour qu'est-ce qu'on aime dans les peines. Et j'avais jamais réfléchi à qu'est-ce que, genre quand je me réjouis de la condamnation de je sais pas qui, pourquoi je suis, qu'est-ce que j'en cherche, quoi. Et elle liste genre dissuasion, punition, réhabilitation et éloignement. Et du coup après elle prend les quatre vertus pour montrer que c'est pas des vertus et qu'en fait elle dit les quatre, il y en a aucune qui marche en gros, quoi.
Est-ce que on a des, de manière peut-être statistique, mais peut-être un peu plus fine, est-ce que vous avez des ressources sur les victimes qui sont passées par le système pénal classique? Est-ce qu'elles ont l'impression d'avoir eu réparation? Et comment ça se passe? Parce qu'en réalité, je parlais de reconnaissance tout à l'heure, en effet, peut-être qu'il y a une reconnaissance à la fin d'un procès qui est, et de manière très légitime, hein, c'est pas réconfortante, mais acceptable pour la victime. Mais avant ça, elles sont passées par des comicos, on sait ce que c'est. Avant ça, elles ont entendu toutes les horreurs des avocats, de la défense. Donc, ça met du temps à arriver, la reconnaissance. Et je me demandais si on avait justement des faits, enfin des données factuelles sur comment se sentent les, et peut-être que ça n'existe pas d'ailleurs, comment se sentent les victimes après un de violence de VSS, après un procès classique, quoi. Et même avec peine de prison.
J'ai pas du tout de statistiques générales ou de, mais par contre j'ai pensé à ça en comme un exemple qui incarne ce genre, qu'est-ce qui se passe quand le meilleur des cas est arrivé dans la justice pénale. Et j'ai assisté à des assises d'un féminicide. Alors c'est un féminicide, et donc c'était les filles de la victime qui étaient les parties civiles, et donc ça dure une semaine, et tu viens tous les jours, et je sais pas quoi, et donc la famille des filles, les machins, etc. Et c'était en plus c'était un cas très médiatisé, très gore, donc évidemment c'était une semaine un peu intense, et c'est une semaine pendant laquelle en fait tout saute, et tu n'es plus là que, alors tu n'es plus là que à attendre le verdict, qu'ils prennent lourd, machin, etc. En plus il y a dans le public, il y a des gens qui viennent à toutes les assises et qui sont des fans de justice et qui, genre, et qui sont des gens très spéciaux et qui, eux, à mon avis, ont des couches de réflexes carcéraux qui sont... C'est plus un oignon, c'est toute l'oignonnerie. C'est tout l'oignonnier. Et donc, eux, ils sont là, à la pause club. Ouais, il va prendre 20. Non, il va prendre 25, comme la semaine dernière. Des fans, quoi. Et donc, en fait, ils te mettent un peu dans cette ambiance-là. Et par ailleurs, tu vois les tantes pleurer, les filles, etc. Machin. Et bref, le verdict tombe et il prend le max. Il prend, je sais plus, 18 avec 2/3 de sûreté, le max de ce qu'il pouvait encourir, quoi. Et la fille aînée de la victime, du coup, qui était un peu la principale incarnation de la victime qui était présente, s'effondre en larmes et elle sort en colère et en larmes et tout machin. Et en fait, elle, je sais plus, elle avait genre 13 ans, donc elle calcule qu'en gros, il va sortir dans 16 ans, peut-être un truc comme ça. Et donc elle disait, et elle répétait en boucle, oh, voilà, je vais vivre jusqu'à mes 29 ans. Et avec mes 29 ans, en fait, il va sortir et donc il va venir me chercher et tout. Et donc en fait, il y avait rien en elle qui était apaisé. Et en fait, dans ce qu'elle disait, rien n'aurait été suffisant pour la rassurer, à part, en fait, et d'ailleurs, plein de membres de sa famille l'ont évoqué, la mort, en fait, la mort de ce gars, c'était pour elle la seule option où elle aurait été satisfaite à la fin de cette semaine d'assises. Et du coup, c'était horrible, parce que c'était vraiment comme une sorte de preuve par le fait de tout ce qu'il y a d'insatisfaisant dans ce truc, où en fait, il n'y avait aucun verdict qu'aurait pu prononcer le président qui aurait assouvi ce dont avait besoin cette ado-là.
Ouais. Ce qu'on pourrait écouter, par exemple, c'est Anaïs Rosso qui reprend Johnny Cash.
Waouh. Mais oui.
Mais oui, on pourrait faire ça.
Mais est-ce qu'on va le faire ?
On va le faire. I hear the train coming, it's whirling around a bend, and I ain't seen the sunshine seen sight on the wood, but I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But our train keeps on whirling,
come down to Salmonton. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot the man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head and I cry. I bet there's rich folks sitting in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. But I know I had it coming. I know I can be free. But as people keep on moving, and that's what tortures me. Mm-hmm. Stuck in falls and prison blues.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, Langue de Fronde, et aujourd'hui on fait une émission autour de comment faire justice autrement que passer par le pénal dans des contextes de VSS. Moi tout ça, ça me fait repenser à quand on parlait pour Mazan de décollage qu'il y avait eu devant, de 20 ans pour tous, etc. Et que, enfin, moi ça m'avait un peu angoissé de dire ça, parce que voilà. Et je trouve que ça rappelle un peu le... Moi, il y avait un nœud quand on est venu à ce studio où je me suis dit, j'aimerais qu'on parle de ça. Et c'est un peu le rapport du féminisme au carcéral, dans le sens où, en fait, il n'y a pas à y avoir de féministe qui va dire, moi, je suis féministe pro-carcéral. Et qu'en fait, c'est surtout quelque chose qui se lie un peu dans des décisions politiques. J'ai un extrait là-dessus que j'aimerais bien vous lancer et qu'on en discute après. C'est l'extrait sur Françoise. Enfin, c'est Françoise Vergès et une députée LFI, André Tourigna, qui ont mis en ligne une vidéo où elles discutent de la gestion des VSS d'un point de vue anticarcéral.
Alors, j'imagine votre réponse, mais. Je vous la pose quand même. Vous savez qu'on va avoir à la rentrée une proposition de loi de la députée Aurore Berger qui va pas dans le bon sens, puisqu'elle prévoit d'introduire l'imprescriptibilité des infractions sexuelles sur mineurs en matière civile. Bon, pour après ensuite aller sur le pénal. Elle allonge les mécanismes de prescription pour les infractions sexuelles commises sur les majeurs. Elle introduit dans le code pénal la notion de contrôle coercitif en matière de violence conjugale dans un contexte de surenchère pénale, à l'opposé de ce que nous proposons, notamment sur l'imprescriptibilité, qui n'est normalement prévue que pour les crimes contre l'humanité.
Ces lois sont des... Bon, d'une part, effectivement, il y a une espèce de panique morale... Aurore Berger qui s'institue en défenseuse des femmes. Ce sont des lois qui sont là parce que, si vous voulez, il y a quelque chose dans ce féminisme, dans cette protection des femmes, qui veut faire consensus. Parce que les femmes sont fragiles, et puis, je veux dire, il y a des tas d'histoires, tout ça, même si, en fait, il y a moins de crimes. Mais les crimes sont dans les familles, très souvent. Donc, évidemment, on n'est pas question de parler de la famille patriarcale. Il n'est pas question de parler de la propriété privée, il n'est pas question de parler de ça. Donc on parle de violence contre les femmes, quelque chose comme ça. Et donc on repose là-dessus, et avec évidemment l'horreur qu'on peut ressentir à la lecture de toutes ces choses. Et on s'appuie là-dessus pour évidemment la loi répressive comme réponse. Je veux dire, tout le monde n'est pas Gisèle Pélicot, hein, tout le monde n'est pas dans la victime parfaite. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas porter plainte de cette manière, pas seulement parce qu'elles sont mal reçues par la police, mais parce qu'elles ne veulent pas non plus porter cette histoire, être associées à cette histoire. Donc, ce que Aurore Berger, elle est dans cette lignée de la transparence absolue, où le jugement, tout doit être transparent. Et donc, les personnes occupent des places, des clichés, quoi. Je veux dire, donc la femme victime innocente, l'homme horrible, je veux dire, c'est absolument contre toute analyse sociologique et anthropologique de la société. Il y a en France, je l'ai dit, il y a en France un féminisme de gauche quand même, on l'appelle de gauche parce qu'il ne vient pas de l'extrême droite, hein, il ne vient pas ou de la droite de Ciotti, qui est vraiment punitif, qui a un féminisme d'ordre, qui a un féminisme de discipline. Et c'est difficile parce qu'évidemment, on dit féministe, on pense tout de suite que ça va être progressiste, que ça va être, ça va aller dans le sens de la justice et de l'égalité. Non, il y a toujours eu un féminisme punitif et répressif. C'est ça qu'il faut mettre à jour. Et Aurore Berger, c'est certainement une bourgeoise profondément au sens de classe, qui de toute façon veut envoyer certains hommes, certainement pas son mari ni son frère, en prison. Mais je veux dire, il faut aussi parler de la prison. Il faut revenir aussi à ce que c'est que la prison, à ce que ça fait aux prisonniers et ce que ça fait aux proches des prisonniers. De la même manière qu'il faut parler de la victime et des proches de la victime. Et en fait, et de cette, effectivement, de comment le système malmène autant la victime et ses proches que l'accusé et ses proches. Pas de la même manière, mais ça malmène. Le nombre des femmes qui disent « mais j'aurais préféré ne pas porter plainte. J'aurais préféré ne pas traverser ça. » Et puis qui ne tiennent pas compte des sentiments peut-être contradictoires qui animent cette femme par rapport à cet homme qui est peut-être son compagnon et qu'elle veut d'une certaine manière effectivement qu'il prenne la mesure de ce qu'il a fait et qu'il en prenne la responsabilité, mais qu'elle ne veut pas voir nécessairement en prison.
Ouais, je sais que qu'il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de choses à apporter là-dessus, mais je trouve que ça montre un peu cette tension qu'il peut y avoir entre, d'un côté, en fait, finalement, elle décrit Françoise Vergès, je ne suis pas sûre d'être à fond sur tout ce qu'elle dit, mais qu'en gros, il y a plein de personnes qui se disent féministes parce que, justement, elles vont aider à prolonger le délai de prescription, enfin, des choses comme ça, qui permet à certaines personnes de passer, du coup, devant la justice et d'avoir l'impression qu'on les entend et d'avoir l'impression de... Mais que par ailleurs, c'est du coup foncer droit vers plus de pénalisation et du coup, pas forcément au final apporter une réponse
structurelle.
Ouais, voilà. Bon, je sais pas ce que vous pensez de cet extrait, mais j'ai trouvé que c'était intéressant.
Moi, je suis d'accord avec ce truc de réprimer très 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 fort un type de VSS, c'est-à-dire construire la VSS telles que les institutions se les représentent, réprimer très 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 fort celle-là, précisément pour en laisser aussi plein d'autres bien tranquilles. Et elle mentionne les violences en cadre familial, et typiquement en fait elle dit, je crois qu'elle n'a pas envie de l'envoyer en prison, ni son père ni son frère. Le typiquement c'est que il y a des sujets qui sont entièrement comme en sous-marin en fait, et du coup c'est pas tellement genre, moi je sais pas, ça... L'idée, genre, le féminisme aujourd'hui est punitif. Je sais pas, c'est pas un peu quand même too much, comme, parce que de fait, on n'a pas non plus tout à s'enchaîner à les tribunaux pour réclamer le retour de la peine de mort. Mais par contre, que le féminisme institutionnel d'Aurore Berger, c'est plutôt un truc de classe, en fait. Fondamentalement, le fond, elle le dit, c'est féminisme de classe, quoi. C'est-à-dire protéger sa classe et protéger les membres de sa classe. Et construire la mauvaise VSS, qui est évidemment celle des autres classes, quoi.
Ouais, et c'est aussi, moi j'entends un féminisme de race aussi, enfin un féminisme blanc par exemple aussi, enfin bon, Aurore Berger, enfin elle est, bref, je sais pas si je risque de la diffamation si je dis ce que je pense de Aurore Berger. En tout cas, par exemple, on voit aussi avec le fémonationalisme, du coup, un pseudo-féminisme qui est en réalité un racisme, qui veut cibler le harcèlement de rue. En effet, en passant sous silence la majorité des violences qui, comme Françoise Vergès le disait, ont lieu dans la sphère familiale. Après, moi, je pense qu'il y a vraiment plein de points de vigilance à avoir sur, en fait, l'idée qu'il y aurait un féminisme punitif. En fait, de qui on parle, de quoi on parle, dans quel contexte. Je pense que c'est hyper important de citer ça. En effet, le fémonationalisme, alors on peut dire que c'est pas un féminisme, sauf qu'aujourd'hui, il se nomme féminisme. Donc, moi, j'ai envie de dire que le fémonationalisme, c'est un féminisme punitif des personnes blanches envers les personnes non blanches, et mais pas que les personnes blanches, les personnes hétéros, la famille cis-hétéro-patriarcale, bourgeoise, etc. Ça, c'est sûr. Par contre, je pense que c'est hyper important de ne pas stigmatiser les victimes qui demandent de la justice pénale, parce que sinon, on rejoue un même imaginaire des féminazies qui seraient... Alors du coup, féminazies, pas les fémonationalistes, mais des féministes sorcières, machiavéliques, qui veulent en fait détruire l'homme. En fait, ça, c'est un discours incel. C'est le discours des masculinistes. Donc je pense qu'il faut y faire hyper important de la façon dont on porte des critiques sur les besoins de reconnaissance pénale qui sont légitimes. De nombreuses victimes, enfin, je rappelle 86% des plaintes qui sont classées sans suite, enfin, c'est d'une violence absolue pour les victimes, et qui ensuite, après dans l'imaginaire, on va dire ah mais non, parce que les gens savent pas que classement sans suite ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de preuves et qu'il n'y a pas eu de violence, et oui ça veut pas dire relax en fait, et je pense que c'est vrai que on peut se poser la question du renforcement de la loi française sur les VSS en se disant « Ah, mais est-ce que du coup, on ne court pas vers plus de pénalisation ?» Enfin, aujourd'hui, la pénalisation des VSS, c'est une blague. Enfin, du coup, enfin, non, je ne pense pas qu'on arrive... Enfin, moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit un risque. Et au contraire, c'est nécessaire. D'autant plus, hein, là, je vais apporter un autre argument, c'est-à-dire que, là, tout à l'heure, on parlait de l'imaginaire. On n'arrive pas à avoir d'imaginaire en dehors des prisons. C'est tellement présent que même dans les milieux anarchistes... féministes, anarcha-féministes, les milieux autonomes, les milieux d'écologie radicale, et tutti quanti, quoi, le mouvement autonome en général. Et ben, en fait, quand il y a une victime qui va dénoncer des violences qui ne sont pas reconnues par la loi, la réponse qui peut lui être faite, c'est « Ah, mais ce n'est pas du viol, ce n'est pas reconnu par la loi. Ah, mais ce n'est pas de la violence psychologique. De toute façon, qu'est-ce que ça veut dire, la violence psychologique ? On ne comprend rien. Ah, le violentomètre. Ah, OK, c'est chantage au suicide. Il ne t'a pas fait de chantage au suicide. Bon, du coup, ce n'est pas de la violence psychologique. En fait, la loi, malheureusement, hein, c'est juste un constat. Aujourd'hui, la loi, elle permet d'avoir une boussole pour beaucoup de personnes pour savoir est-ce que ce qu'elles vivent, c'est de la violence. Et aussi pour l'entourage de se dire, ah, oui... c'est de la violence parce que ça existe dans la loi. Donc moi, j'aimerais qu'il n'y ait pas besoin de la loi pour que ça serve de boussole, ce qu'aujourd'hui, ça en fait. Je pense que c'est important que le contrôle coercitif rentre dans la loi, qu'on élargisse le violentomètre sur plein de types de violences qui ne sont pas recensées dans le violentomètre. Parce qu'aujourd'hui, notamment dans certains milieux et dans les milieux de gauche, il y a des hommes qui ont bien compris comment fonctionnait le violentomètre et du coup qui vont produire de la domination autrement. Parce que, en fait, d'ailleurs, le patriarcat, il serait hybride en fonction des espaces comme le capitalisme, comme le racisme. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on va dire « Ah, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça » que la domination, elle va pas repartir, elle va se hybrider. Je pense que tout ça, sur cette question de... l'anticarcéralisme, je pense qu'il faut l'observer à l'aune. Pour parler de violence sexuelle et d'anticarcéralisme, il faut analyser ça à l'aune du traitement des VSS. Et on ne peut pas, selon moi, parler d'anticarcéralisme sur les questions de race, de classe, et du coup faire un glissement sur les VSS dans les milieux militants. Je pense qu'il y a un pont qui manque, à ces endroits.
Ouais, moi, ce que j'entends aussi, c'est et ce que je ressens d'ailleurs, par ailleurs, c'est l'absence de réponse autre. C'est quand même là, on reconnaît tout ici que c'est des violences qui sont structurelles. Et tout d'un coup, il n'y a au moment de juger les victimes, lapsus intéressant. Au moment de juger les agresseurs, on a l'impression qu'il n'y a plus que des cas individuels et on fait des grands procès cinégéniques. Et voilà, c'est de la provocation. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'au moment de Mazan, on pose la question du mariage hétérosexuel, qui malgré tout a l'air d'être un endroit très dangereux. Pourquoi il n'y a jamais... Pourquoi on n'élève jamais le débat ? Pourquoi on reste sur des peines individuelles ? Et moi, c'est ce que j'entends aussi dans ce que dit Françoise Vergès, même si, en effet, je suis d'accord, il faut faire attention au glissement. Mais il y a quelque chose d'une absence de réponse collective. Et tout d'un coup, c'est un individu, une peine, une victime, un coupable, une peine. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça, le patriarcat. Enfin, il y a quelque chose où le groupe est absent. Et où l'État régit tout, et où on en attend tout, et on attend tout du carcéralisme, et il y a quelque chose qui manque cruellement. Voilà, après longtemps.
Et c'est là, je trouve, que ça fait sens de justement réinventer une nouvelle justice,
ouais,
à un niveau plus proche, et qui est la justice communautaire, dont on peut parler après.
On pourrait faire une petite pause musicale en écoutant Thelma et Louise de Solane et Yoa.
Plus t'es bourgeois, moins t'as de trucs à dire. J'ai pris ma cravache et mes bottes de cuir. Je compte plus les moutons ou les violeurs qui passent à la télé. Je méprise les bouffons et les suiveurs qui les font prospérer. Je pardonne à personne, je te l'ai dit, je suis redoutable. Je veux pas de fils de un, pas de connard à ma table. Équipe de copines dans la voiture, cheveux dans le vent. Pris comme des étoiles qui traversent le ciel incandescent. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, cours de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma. Je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, cours de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise. Partir comme Thelma et Louise. Formé, ça s'est crému et la queue. Ils ont le mort parce qu'on va briller plus fort qu'eux. J'ai dévité des vérités, des petits lapins ont détalé. Ça leur fait mal de quémander, de baver, de se faire recaler. Ça fait les seigneurs, ça se complaît dans la mentale. S'ils nous balancent des miettes, nous on va retourner la table. Moi je me suis perdue et retrouvée dans les bras de mes douces. La torsée autour d'un bûcher, ce soir la lune est rousse. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, cours de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme ta mère. Je vais tuer mon idole, prendre la fuite, effacer au vitriol, voir au folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, cours de route, on lâche rien à part le frein. Je prends ma vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise. Partir comme Thelma et Louise. Pour la main des hystériques, si on leur offre volte-face, ça part en chalade historique, écran de fumée, tête dans la crasse. Coup de phalange dans les obliques, les ignorés arrivent en masse. Y'a une justice vitriolique à se faire descendre par des pétasses. Et je vais tuer mon idole, prendre la fuite, l'effacer au vitriol, gloire ou folle, viser le drame à partir comme Louise et Thelma. Fin de course, bout de route, on lâche rien à part le frein. Je prends la vie dans ma valise, partir comme Thelma et Louise.
On est toujours sur Langue de Fronde. Pour une émission un peu spéciale, une émission autour de comment est-ce qu'on peut trouver des processus de justice autres que dans les tribunaux autour des questions de violences sexistes et sexuelles, sur 106.3 FM.
On entend souvent des victimes après les procès, si tant est que,
il y a eu.
Rarement, mais quand même de temps en temps, si tant est qu'il y ait eu condamnation à mesure de ce que la victime attendait. Je trouve que c'est quelque chose qui se dit beaucoup, qu'elles disent beaucoup, que les victimes disent beaucoup, que tout d'un coup, c'est une reconnaissance. Et ça, c'est vrai que si on sort du système pénal tel qu'il est, dont on a pointé les biais racistes, c'est même pas des biais, quoi, c'est des structures racistes, classistes. Comment cette reconnaissance, elle existe quand même? Comment le groupe fait reconnaissance? Comment on dit « je reconnais le mal qui t'a été fait ». Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui questionne quand on pense à qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre que la prison. Comment on fait groupe et on fait reconnaissance de la victime. Comment tout d'un coup, on n'est pas que dans quelque chose. Alors là, j'anticipe un peu, mais comment on n'est pas que dans la... on déresponsabilise les agresseurs, quoi. Comment la victime, elle garde toute sa place ?
Justement, sur la question de la reconnaissance et une pluralité des apports, des travaux, j'invite les auditeuristes et nous-mêmes à aller consulter les travaux de Ruth Morris, qui est une militante abolitionniste, également anticarcérale. Et donc, elle parle de 5 étapes dans la justice communautaire. Donc, on peut aujourd'hui, il existe plein de mots pour nommer les justices dites alternatives hors système pénal. Pour moi, même s'il y a une justice pénale, il faut une justice communautaire. Parce qu'en fait, les violences, elles arrivent parce qu'il y a un contexte et des conditions qui permettent l'exercice de ces violences, notamment, là, quand on parle de VSS, en tout cas, il y a nécessairement la question patriarcale. Et du coup, comment la communauté, on parle de culture du viol aussi, de comment la communauté est imprégnée de culture du viol, comment elle le reproduit, et du coup, comment, même si on n'a pas de prison, on peut reproduire quand même de la culture du viol et la culture du patriarcat. C'est pas parce qu'on n'a plus de prison que ça y est, ça va partir. Donc, la question, c'est... déjà, en prévention, vraiment œuvrer contre la culture du viol et du coup tous ces stéréotypes, etc. Mais par exemple, Ruth Morris, elle parle de 5 étapes qu'elle définit pour obtenir, pour qu'une personne puisse avoir un sentiment de justice. Et encore là, je pense que ça va prendre avec beaucoup de pincettes parce que chaque victime a, en fait, c'est ça qui est très difficile dans la question de la justice, c'est que le sentiment de justice, il est propre à chacun en fonction de comment notre intégrité a été touchée. Et du coup, pour moi, on ne peut pas avoir une réponse uniquement... il faut une pluralité aussi des approches sociologiques, psychologiques, scientifiques. Enfin, on a besoin de plein d'approches différentes. Donc elle parle de 5 étapes et qui est déjà la première étape, c'est la sécurité. C'est la sécurité de la victime. Donc la sécurité, elle peut se mettre en place de plein de manières. Donc c'est vrai que de prime abord, on peut penser à l'éloignement. Et par exemple, alors je pense que ça serait à creuser, mais moi quand j'entends la remise en question d'un éloignement, non, c'est pas possible. En fait, il y a justement plein de féminicides ou des violences qui sont conjugales qui sont liées au non-éloignement de l'auteur de violence. Du coup, l'éloignement, il n'est pas nécessaire systématiquement, mais il est nécessaire d'évaluer la situation et en fonction de l'évaluation de la situation, d'obliger un éloignement parce que sinon, en fait, il y a juste les personnes qui risquent de se faire tabasser, tuer ou violenter psychologiquement. La sécurité, elle se fait pas uniquement physique, elle est pas uniquement physique, elle est aussi émotionnelle. Par exemple, une victime qui a subi des violences, voire l'auteur de violences dans la permissivité la plus totale et qui puisse continuer sa vie, l'air de rien, dans des espaces qu'elle peut potentiellement fréquenter ou qui sont en raccord avec ses valeurs politiques, ça peut être hyper violent pour elle. Et du coup, continuer la violence, même si la relation est terminée, même s'il n'y a plus de contact direct, c'est ce qu'on appelle des violences secondaires. Donc ça aussi, il faut intervenir, sinon en fait, la violence continue. Ensuite, il y a aussi comprendre pourquoi. Donc ça, c'est la deuxième étape, les explications. C'est très dur d'obtenir des explications de la part d'un auteur de violence de pourquoi il nous a fait ça. D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, « Pourquoi il fait ça ?» Alors, je me sens plus des auteuristes, je suis désolée. Mais en fait, les explications, on ne les a pas seulement par les auteuristes, on les a parce que des fois, souvent, ils vont être dans le déni. Enfin, en fonction du niveau de violence, il y a des auteuristes qui... c'est pour ça que c'est hyper important d'évaluer le contexte dans lequel ça a été produit, la violence. Mais il y a des auteuristes qui sont dans le déni et qui vont d'ailleurs aussi... être dans des processus manipulatoires, notamment la stratégie d'Arvo qui a été théorisée par Jennifer Freid, qui est une psychologue états-unienne, qui explique le déni, l'attaque et reverse victim and offender, c'est-à-dire va se mettre dans une position où on va être l'auteur va être la victime et en fait la victime est la coupable. Donc en fait il faut pouvoir évaluer dans quelle posture se situe l'auteur. Donc des fois on peut pas avoir des explications de la part d'auteur parce qu'il est dans cette posture-là. Donc c'est là qu'intervient des personnes qui sont en capacité d'accompagner les auteurs de violences. Et ça ne s'invente pas. C'est pas, on ne lève pas les doigts dans le ciel et on sait comment accompagner un auteur de violence. Parce qu'accompagner un auteur de violence, c'est être en capacité de débunker la culture du viol qui lui a permis de produire la violence, tout en ayant suffisamment d'empathie, entre guillemets, d'humanité et d'amour pour lui pour l'aider à avancer. Bah, ça, tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Et il y a aussi des mécanismes qui font que bah, il y a des personnes qui vont manipuler les personnes qui les accompagnent. Donc, il faut vraiment être outillé, quoi. Et les explications de la violence qu'on a subie, on peut l'avoir, par exemple, par des cercles de parole, en essayant de comprendre qu'est-ce qui produit la violence, en essayant d'avoir des explications de la part de la communauté qui n'a pas réagi ou qui a permis les violences, etc. Donc, voilà ces premières étapes. La reconnaissance du préjudice, ça, c'est sûr, pas que par l'auteur de violence, mais par la communauté. Parce qu'un auteur qui reconnaît une fois, oui, j'ai fait ça, excuse-moi, et qu'ensuite, il continue à faire comme si de rien n'était, c'est des fausses excuses, c'est une fausse reconnaissance. Pareil pour la communauté, si elle reconnaît, la communauté reconnaît, oui, tu as subi des violences psychologiques, mais qu'il n'y a rien qui change, c'est une fausse reconnaissance. Et ça peut être encore plus violent pour la victime. Donc, il faut que ça soit une reconnaissance en acte. Vraiment en acte. Et c'est là qu'on arrive à de la transformation communautaire. La reconnaissance en acte, les explications en acte, quand c'est un travail communautaire, ça permet de comprendre que qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cet exercice des violences et comment on arrive à ne pas le reproduire. Et donc là, on peut en effet éviter la récidive. Ensuite, il y a la question des réparations. Bah, les réparations, elles sont de plein d'ordres. Elles vont être réparations directes, réparations économiques, parce que donc non seulement la victime va avoir des dépenses thérapeutiques, donc la thérapie c'est pas juste le cerveau, c'est aussi le corps, il y a des traumatismes corporels, même quand on n'a pas subi de violence physique, le corps est impacté en fait par la violence psychologique, donc il y a tout un arsenal de thérapie qui doit être décidé par la victime et ça peut s'élever à des milliers d'euros, vraiment à des milliers d'euros. Donc comment on fait en sorte que l'auteur de violence puisse être en capacité de payer les frais où la communauté le fait. Et ensuite, il y a les indemnités, selon moi, où pour temps perdu, tout simplement, pour temps de vie volée, pour dommages irréversibles sur le corps et le cerveau, dommages matériels, parce qu'il y a aussi des fois de la matérialité, il peut y avoir des réparations symboliques, où là, par exemple, c'est aussi aux victimes, enfin, c'est pas aussi, c'est aux victimes. En fait, la réparation, c'est les victimes qui peuvent dire qu'est-ce qu'ils réparent, parce que c'est seulement elles qui peuvent dire « j'ai un sentiment de justice ». Personne ne peut décider à leur place. Et enfin, bah, la question du sens, parce que la violence, ça attaque le sens existentiel, c'est-à-dire quand on subit des violences, pas toutes les victimes, mais il y a notre existence même, le sens existentiel qu'on a qui est touché. Donc comment on peut retrouver un sens à notre existence après avoir vécu ça? Et ça aussi, c'est un long processus, ça prend du temps, c'est pas expéditif, ça demande du travail, ça peut demander de l'argent, enfin là en l'occurrence. Et du coup, c'est ça aussi les freins, c'est comment on fait tout ça alors que la majorité des auteurs de violence ne risquent pas de pénal et qu'on n'a pas de contraintes à la justice communautaire. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour qu'on fasse justice communautaire, il faut que les auteurs de violence acceptent de rentrer dans un processus. S'il n'y a pas de contraintes, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Parce qu'en plus, ils savent qu'au niveau pénal, les victimes, elles ne vont rien obtenir. Donc, ils ne risquent pas la punition pénale. Et ils risquent... enfin, du coup, c'est ça le nœud, je dirais, de comment on fait justice communautaire. Il faut une communauté très forte à ces endroits-là. Et pour le moment, c'est complexe.
Je me dis, tu parles de justice communautaire. Est-ce que tu penses que tu pourrais définir en deux mots ce que tu veux dire par là ?
Ouais, carrément. En fait, la justice communautaire, selon moi, ça recouvre tout un champ de pratiques. C'est-à-dire, c'est comment la communauté... tu le disais tout à l'heure sur les différentes communautés. Par exemple, je sais pas, un groupe de potes, un groupe de radio. Voilà, on est une communauté, là. Une communauté militante, un collectif, un lieu de vie, etc., la famille, enfin, tout ça, c'est des communautés. Et donc, c'est comment, quand tu as des violences qui surviennent, les personnes de ces communautés interposées, des croisements communautaires, se mobilisent autour de ce sujet. Ne pas réagir, c'est une façon de se mobiliser. Hein. L'omerta, le silence, c'est une façon de se mobiliser. Et du coup, c'est comment on arrive à se responsabiliser collectivement pour produire de la justice. Et après, il peut y avoir plein de façons. Moi, la justice en laquelle je crois, au sens où je ne dis pas que ça marche, mais la justice qui est mon idéal, c'est la justice transformatrice, c'est-à-dire un peu ce que j'ai pu dire auparavant. Bon, je ne sais pas si ce sera... Mais en tout cas, dans la justice transformatrice, c'est l'idée qu'on se transforme tous dans la prise en charge de la violence, c'est-à-dire qu'on réfléchit à quelles sont les conditions qui ont permis l'exercice de la violence. On reconfigure l'ordre social et donc ça peut nécessiter des éloignements, des ruptures d'activité, des reconfigurations d'activité. Parce que en fait, si on regarde la même structure sociale et qu'on dit juste à quelqu'un « bon, bah, tu vas payer l'argent et t'excuser », mais il n'y a rien qui se passe. Hein. Enfin, ça se reproduit, quoi. Donc, les accompagnements par des personnes formées, les réparations de la victime, etc. Ça, c'est la justice idéale à laquelle je crois. Aujourd'hui, moi, ce que je vois fonctionner plus ou moins, c'est plutôt la justice que j'appelle réparatrice. La justice réparatrice, pour moi, c'est une partie de la justice transformatrice, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur la réparation des victimes, avec les fondamentaux de Ruth Morris, les 5 étapes. Parce qu'en fait, la justice transformatrice, à ce stade, je trouve qu'elle est... pas inatteignable, mais en fait, aujourd'hui, on n'est pas prêt, en fait. Juste, moi, je ne trouve pas à la hauteur de ça, mais pas en mode jugeant, c'est mal. C'est juste, en fait, on n'a pas les ressources, tout simplement. Donc, ça serait merveilleux qu'on puisse arriver à ça, mais que pour l'instant, ça demande beaucoup de taf, d'argent, de temps qu'on n'a pas nécessairement. Donc, au moins, la justice réparatrice. Sachant aussi, donc là, je fais une petite ellipse, qu'aujourd'hui, le terme de justice réparatrice et justice restaurative... sont utilisés pour désigner des pratiques très ciblées. On parle au Canada de justice réparatrice et l'équivalent en France, c'est la justice restaurative. Et du coup, c'est plutôt les pratiques qui s'intègrent dans la justice pénale, c'est-à-dire des rencontres auteurs-victimes qui sont ultra préparées après reconnaissance pénale, après reconnaissance de la culpabilité, etc. Enfin, des choses qui sont très, très préparées. Ça, par exemple, on va du coup introduire de la médiation relationnelle, une pratique de la justice restaurative, avec une grosse vigilance, c'est-à-dire que normalement, par exemple, la Convention d'Istanbul dissuade, voire interdit le recours à la justice restaurative, donc médiation relationnelle, etc., quand le procès est en cours. Parce qu'en fait, quand le procès est en cours, a porté plainte, c'est un risque de reproduction de violence, de retraumatisation, d'instrumentalisation, parce que tant que la culpabilité n'a pas été reconnue ou la responsabilité n'a pas été faite, bah, l'auteur va continuer à pouvoir exercer de la violence via cet outil-là. Et aujourd'hui, un des problèmes, c'est que c'est des outils qui peuvent être utilisés dans les espaces qui ne recourent pas à la justice pénale, et du coup, on se retrouve à des manipulations de processus avec des auteurs de violence. Donc c'est pour ça que c'est des... C'est des choses à apprendre avec beaucoup de pincettes et beaucoup de... Enfin, je dirais de... Moi, je recommande pour faire de la justice transformative, réparatrice, justice communautaire, d'être calé sur les VSS. Enfin, vraiment se former sur les VSS, la compréhension de ce que c'est. Parce que sinon, c'est difficile de comprendre par quoi passent les victimes et les mécanismes que mettent en place les auteurs, consciemment ou inconsciemment, pour produire la violence.
Tu parlais d'à quel point la communauté, ce que tu appelais la communauté, j'imagine que du coup ça peut recouvrir à la fois le groupe de potes, le groupe de collègues, la famille, le groupe militant, et que selon tous les individus ne sont pas insérés dans des communautés de la même intensité, et que du coup en fait il y a des, j'imagine, plein de cas dans lesquels la victime peut à tort ou à raison se dire que la communauté... Là, il n'y a pas d'une communauté suffisamment soudée, suffisamment existante pour même s'y référer. Et moi, il y a un autre truc sur le truc de prise en charge par le groupe qui est, c'est un peu dans le faire justice. Le sous-titre est très long, je ne le lis pas. Faire justice de Elzadeth Marceau, qui en fait, elle donne des exemples de prise en charge collective avec ce truc de sortir de l'opposition binaire victime-agresseur. Mais en même temps, ce qu'elle décrit, les exemples qu'elle donne un peu, qui sont censés être les trucs où tu te dis « Ah, ça, c'est bien comme prise en charge collective », ça s'approche parfois aussi un peu de la dépossession, c'est-à-dire la frontière entre le groupe prend en charge, le groupe se responsabilise, et en fait, on est en train de raconter ton histoire à ta place, prendre des décisions à ta place, est toujours un peu limite, quoi. C'est-à-dire, et même, je pense qu'il y a plein de cas où, en tant que membre d'une communauté dans laquelle il y a eu une violence, t'as envie de prendre ta part, et en même temps, t'es toujours un peu retenu par... Ben, c'est pas mon histoire. Même quand même tu te réfères à la parole de la victime et tout, en fait, tu sais pas exactement jusqu'où ta prise d'initiative peut être pertinente, quoi.
Complètement. y a une dépossession et du coup, il peut y avoir une dépossession quand on ne place pas la victime, quand la victime n'est pas placée au centre. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je... Enfin, je parlais de ligne de mire tout à l'heure, non, de ligne directrice. C'est quelque chose que vraiment je recommande, la victime au centre. C'est elle qui a vécu les violences. C'est elle qui est souveraine de savoir ce dont elle a besoin pour avoir ce sentiment de justice. Alors par contre, quand on n'a jamais été habitué à obtenir justice et à être violenté toute sa vie, notamment d'être assigné à une place où on n'est pas entendu, on est prise pour une folle, etc., où on n'a jamais de réparation, c'est un peu comme comment imaginer une vie sans prison, comment imaginer une vie où on a le droit à la justice et on a le droit à la réparation. Du coup, là, je pense que c'est aussi le rôle de la communauté, c'est de soutenir les victimes pour lui créer des espaces de réflexivité sur de quoi elle aurait besoin. Et toujours cette histoire d'oignon, on enlève les couches, des fois, en fait, là, j'ai besoin de ça. Et après avoir fait ça, c'est... En fait, je sens que ça m'ouvre une autre porte. C'est ça, en fait, dont j'aurais besoin. Et là, de l'accompagner, justement... Et en fait, l'accompagnement du groupe, il peut être réparateur. En fait, là, pour le coup, moi, je trouve qu'il est assez binaire, l'accompagnement du groupe. Soit il est réparateur, soit il reproduit de la violence secondaire. Parce que le groupe, ça peut être aussi dans la dépossession. Donc la dépossession où les personnes vont être très, très en colère contre l'auteur de violence et le défoncer à la place de la victime, alors que la victime, c'est pas ce qu'elle voulait. Justement, Françoise Vergès, elle en parlait dans les histoires de violences conjugales. En fait, dans les violences conjugales, c'est des personnes qu'on a aimées. En fait, et du coup, c'est ça aussi la violence. Et c'est aussi ça qui se passe dans les violences intrafamiliales. C'est des personnes qui étaient censées nous aimer et nous protéger. Ou en tout cas nous protéger d'une certaine manière.
Des personnes qu'on aime, en fait.
Et du coup, les voir se faire défoncer la gueule, en fait, des fois, ça nous rit pas. Et en plus, ça nous emmerde grave parce qu'après, la personne est méga en colère ou en PLS et du coup, elle est plus en capacité de nous apporter les réparations. Donc, c'est là où c'est important de pas déposséder. Mais aussi, dans la dépossession, ça peut être le groupe juge. Si la victime est vraiment victime, le groupe juge si attends, les réparations que tu demandes, c'est trop, non mais machin. Et du coup, ça peut être aussi de la violence secondaire. On rejoue les clichés de la culture du viol de « Ah, mais non, elle est un peu chiante, mais elle est exigeante. » Bah oui, quand on est chiante et exigeante, en fait, quand on a été violentée, en fait, on n'est pas sympa avec le sourire. Ça, c'est encore des trucs très patriarcaux, très misogynes. « Ah, mais elle est hystérique. » Alors, c'est pas dit comme ça. Ça va être « Ah, elle est exigeante. » Enfin, toujours ces trucs. Faudrait la cadrer, Donc il y a aussi ces réflexes qu'on peut avoir de se prendre pour les juges, se prendre pour les flics, la faire attendre pendant des mois parce que c'est inconfortable, on va devoir confronter son pote. Bah oui, c'est inconfortable, mais en fait notre inconfort il est chill par rapport à ce que vit la victime. Donc il y a une nécessité de se responsabiliser. Mais comme par exemple Elzaek Marceau, elle peut le dire dans, enfin ça le montre, enfin le récit qu'Elzaek Marceau fait dans le livre montre, enfin c'est montré que en fait on est un peu des babies quoi par rapport à ces sujets. On expérimente et enfin selon moi il faut se former tous parce que sinon on va reproduire des systèmes de spécialistes et les VSS ça se gère pas. Enfin, je prenais l'exemple du doigt levé, on lève le doigt et on sent ce qui se passe, le courant d'air qui passe. Enfin, c'est pas ça, c'est des savoirs, des vrais savoirs, et en plus des savoirs féministes, des travaux féministes, et du coup, c'est important qu'on s'en saisisse pour pouvoir... Enfin, c'est ça, être à la hauteur d'une société sans prison, d'être à la hauteur d'une société qui fait justice pour les victimes, en fait, c'est être tous calés sur ces sujets, quoi. Ou en tout cas, avoir de l'humilité quand on ne sait pas aussi. Et ça demande du temps. Mais du coup, le temps, on ne l'a pas parce qu'on doit travailler sur le marché capitaliste. Enfin, tout est lié, en fait.
Et du coup, est-ce que, peut-être comme on pourrait en parler un million d'heures, mais qu'on n'en a pris qu'une, on est modeste. Est-ce qu'il y a peut-être des ressources ou des lectures ou je sais pas ou des choses que les personnes qui nous écoutent peuvent checker si ça leur donne envie d'aller explorer un peu tous ces mondes non punitifs.
Alors, j'ai plein de ressources à partager. J'en ai tellement que, en fait, là, je ne vais pas nécessairement pouvoir en donner, mais plutôt une invitation à me contacter par mail et je vous envoie toute ma liste de ressources. Là, il y a aussi une formation qui va être mise en ligne que j'ai... qu'avec un militant santé sexuelle, il est accompagnant d'auteurs de violences, il s'appelle Jean Briage, et enfin voilà, un collègue avec qui on a monté cette formation qui a été donnée aux résistantes, donc on va la mettre en ligne. Si vous voulez des ressources, vraiment, vous pouvez m'envoyer un mail sur suivi-vss@proton.me. Non, ce que je peux partager, c'est que du coup, avec différents camarades, on donne des formations, justement, alors qu'ils ne sont pas des protocoles clés en main, parce que chaque protocole doit être adapté au contexte dans lequel il s'inclut. Mais du coup, c'est plutôt une formation avec des outils, des pratiques, enfin des outils de compréhension des VSS, des conséquences, c'est quoi un peu les fondamentaux qui peuvent exister dans l'accueil de la parole d'une victime, dans l'accompagnement d'un auteur, etc. Et du coup, pareil, si vous voulez solliciter une formation, c'est à prix libre déjà aussi. Bon, après, ça dépend des structures qui ont beaucoup de thunes. Et là, on considère qu'elles doivent payer pour que d'autres petites structures puissent bénéficier des formations. Mais du coup, pareil, suivi tiré... du 6, le tiré du 6, hein, pas celui qui est tout en bas. Le tiré du 6, alors suivi-vss@proton.me.
Et voilà, on va se quitter.
Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Merci à tout le monde.
Merci la technique, merci Caillou, merci Asia. Oui. Merci. Et on se quitte en écoutant un petit morceau de Las Cudras Cubensi. À bientôt.
¿De quiénes?
De nosotras. Decisiones de quiénes. De nosotras.
Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices.
KRUDAS.
Chiqui ni friki, criatura diferente pa' tu psiqui.
Como Mickey ni chiqui ni friki.